franceinter.com.
Je sors prendre mon pain, j'achète ma demi-baguette et je vois un monsieur qui pleure dans la rue, certainement d'origine algérienne. Il pleure, il n'a rien à bouffer. Je viens de lui donner 1 euro et je veux l'emmener chez le boulanger prendre une demi-baguette. Il n'a pas voulu, il a dit qu'il allait à la mosquée prier pour moi. Bon, ben, je voudrais bien que ça cesse et qu'on donne à manger aux vieillards parce qu'ils ont faim et ils crèvent là en ce moment. Salut.
Ouais, bonjour. Bah, ça fait quelques temps que à la télé, j'arrête pas de voir des reportages qui disent qu'il faut faire attention, que la banlieue est en train de s'armer, que les armes arrivent partout dans les cités. Juste hier, j'écoutais la radio, bah, j'ai entendu un premier truc sur un accident de chasse, un gamin de 12 ans qui est mort. Un deuxième, une balle perdue qu'un automobiliste a pris alors qu'apparemment il y avait des chasseurs dans un bois à côté. Et le troisième, c'est un mec qui a tué sa femme au fusil de chasse devant un commissariat. Accident, balle perdue, homicide. Faut faire attention, hein. La campagne est en train de s'armer.
Alichat, Mermé et Bounadad à Toutès. Depuis hier, là, on entend tout le monde s'exprimer là, sur le drame là, qui est arrivé là, sur ces deux gamins là, au Niger. Là. Tous les experts sont venus en nous expliquant les hélicoptères, les avions de patrouille. J'ai pas encore entendu un seul journaliste se demander, mais bon sang, qu'est-ce que foutent des militaires français avec de tels moyens au Niger, actuellement? Sur quel mandat? Sur quelle légitimité? Ah, c'est ça, les médias.
Philippe, ergonome, 20 ans de pratique en médecine du travail, 20 ans d'action pour essayer d'améliorer les conditions de vie au travail des salariés. Dire la vérité, c'est dire que la santé au travail est appelée à se détériorer gravement au fil des années. Dans notre société capitaliste, libérale et mondialisée, le sarkozysme contribue à tout déréglementer, à faire disparaître le code du travail et tous les acquis sociaux. Les délocalisations, le chantage à l'emploi, les licenciements injustifiés constituent une société où les salariés deviennent les esclaves des temps modernes. La soif d'argent, la soif de profit des patrons est telle que la vie des salariés ne compte absolument plus. J'entends le médecin du travail là qui parle actuellement sur les problèmes de l'amiante, le fait qu'on n'ait rien fait, qu'on n'ait pas fait... C'est tout à fait vrai, mais ce qu'il faut rajouter, et que là il n'a pas dit, c'est que les produits de substitution de l'amiante qui sont actuellement mis en place, pour certains d'entre eux, sont tout aussi dangereux que l'amiante. D'ailleurs, de nombreux médecins du travail le disent, et qu'on ne fait toujours pas plus de campagnes de prévention, on ne fait rien de nouveau. Et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, on nous dira tel et tel produit utilisé pour remplacer l'amiante était en fait aussi cancérogène, aussi dangereux. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire. Et d'autre part, il faut dire que de toute façon, les lobbies financiers sont tellement puissants. Moi qui ai travaillé dans la chimie, ils sont tellement puissants que, de toute façon, la sécurité, la prévention, la santé au travail sont des choses qu'on utilise dans la communication, faire bien vis-à-vis du public, vis-à-vis des médias, mais qui dans la réalité sont réduits à tellement peu de choses que la santé et la vie des gens est vraiment en péril.
J'appelle pour la Tunisie. Vous savez, en 68, combien y avait-il de terroristes dans les rues? Cela veut-il dire qu'il y a des peuples qui ont droit à la liberté de parole et d'opinion, à la démocratie et d'autres non? J'ai entendu le silence des médias, ça a commencé en Tunisie le 17 décembre quand même, heureusement ça change aujourd'hui, ouf. Puis maintenant j'entends émeute sanglante, excusez-moi, il faut dire émeute réprimée dans le sang. Et pourquoi ces manifestations pacifiques tournent à l'émeute qui prouvent que toutes ces destructions sont bien le fait des manifestants et pas de provocateurs? Enfin maintenant c'est sûr que ça dégénère. Pourquoi ces amalgames avec les mots terroristes, islamistes, ces mots lâchés par-ci par-là permettent de justifier tous les abandons, toutes les lâchetés? On peut justifier qu'un chef d'État puisse tirer à balles réelles sur son peuple, des jeunes en plus pour la plupart, à cause de notre peur d'une éventuelle montée de l'islamisme en Tunisie? On ne sait pas encore que le désespoir créé par cette attitude n'est pas le meilleur terreau pour l'islamisme? On ne peut pas soutenir les efforts d'un peuple et d'une opposition laminée qui souhaitent enfin la démocratie dans leur pays? En attendant, je rends hommage aux Tunisiens de l'intérieur qui luttent aujourd'hui, et à ceux de l'extérieur, ceux en tout cas qui n'ont jamais accepté cette dictature. Mais nom d'un chien, si la dictature se maintient en Tunisie, c'est nous tous qui perdons. Et ce jeune qui a été interrogé par Sébastien Legénie tout à l'heure sur France Inter, on entendait, il a été arrêté devant lui. Vous voyez le courage qu'il faut pour parler en Tunisie aujourd'hui? Au revoir, à bientôt.
Au secours, Daniel, redonne-nous le nom de ce jeune Tunisien qui s'est immolé par le feu. Vois-tu, un nom maghrébin vite oublié par les médias. Ce n'est pas comme Yann Palak qu'on nous citait à toutes les heures du temps de la Tchécoslovaquie, à bon escient. Quelle complaisance, tout ce racisme, et quelle complaisance avec cette dictature jamais nommée en Tunisie.
Mohamed Bouazizi, c'est le nom de ce jeune homme de 26 ans, vendeur ambulant de fruits et légumes, mais en réalité diplômé chômeur, comme on dit dans le Maghreb, comme on dit à Tunis, qui le 17 septembre s'est immolé par le feu. Il venait d'être arrêté parce qu'il n'était pas en règle pour vendre ses légumes et ses fruits. Et il est mort des suites de cette immolation par le feu. Et c'est ce geste-là qui a déclenché la révolte et les émeutes à travers toute la Tunisie. Depuis le 17 septembre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fallu quand même tout ce temps-là pour que nos médias français s'intéressent à ce qui se passe en Tunisie. Et puis maintenant aussi en Algérie, on parle de complaisance. Effectivement, la complaisance entre les autorités françaises depuis plusieurs gouvernements et le gouvernement de notre ami Ben Ali ne sont plus à démontrer. On en a encore eu des échos il y a très peu de temps. Sur nos propres antennes aujourd'hui, on va entendre des Tunisiens, paroles de Tunisiens. On va retrouver des Tunisiens que nous avions rencontrés dans nos reportages il y a 10 ans, en 2000 avec Give à Tunis et puis ailleurs à travers le pays, qui se battaient, qui s'engageaient, qui prenaient des risques, qui allaient et venaient. Et ça avait l'air d'être des combats tout à fait désespérés. On disait, oui, mais voilà, c'est une bande d'intellectuels engagés, des gens politisés. Mais enfin, ils n'ont absolument aucun lien avec la Tunisie profonde qui est dépolitisée, qui s'en fout, qui ne pense qu'à survivre et à consommer. Eh bien voilà, 10 ans après, cette Tunisie profonde s'est réveillée par sa jeunesse et puis par tous les Tunisiens qui aujourd'hui se soulèvent partout face à cette bêtise à front de taureau, comme disait Paul Éluard. Et c'est ça le combat qui est engagé. On avance le chiffre de 50 morts actuellement. Mais surtout, ce qui compte au-delà de ça, parce que c'est important, mais au-delà de ça, c'est la parole, c'est le mouvement, c'est la peur, c'est ces moments où l'histoire s'accélère, dont les mots que nous allons entendre jusqu'à 16 heures témoignent. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je suis suffoquée d'entendre encore et encore qu'il s'agit d'un accident rare, disent les gendarmes. Effectivement, il y a un pauvre monsieur de 42 ans qui s'est fait flinguer par un chasseur dans les Côtes d'Or, une balle dans la tête. C'est anodin, finalement. Moi, j'ai été victime il y a 2 ans d'une balle à sanglier dans ma maison. Elle est rentrée par ma fenêtre du salon et sortie par celle de la salle à manger, a poursuivi dans le jardin jusque dans la grange, là où mes enfants jouent. C'était un samedi, c'était midi. Bon, c'est anodin. Il y a eu un procès, on a été récompensé de ce bel événement par des railleries, des perpétuelles présences des chasseurs autour de chez nous. On est à la campagne, vous comprenez, c'est ancestral, c'est comme ça, on n'a rien à dire. Voilà, et puis on continue d'entendre à la radio qu'il y a des accidents, et moi c'était le mot rare qui m'a assise. Il y en a ras-le-bol de cette suprématie du viandard. Ça fait caguer que les gens se comportent pire que des sauvages et des animaux.
Bonjour et bonne année 2011 à tous. Le prochain repère de Tréguier dans les Côtes d'Armor se tiendra mercredi 12 janvier à partir de 18h30 au bar des Plaisanciers. Le sujet de la discussion, la décroissance. Le bar des Plaisanciers se situe sur le port à Tréguier. À mercredi.
Depuis plus d'un siècle, les extrémistes idéologiques des deux bords politiques s'emparent des incidents dont on parle beaucoup dans les journaux pour reprocher à ma famille l'influence démesurée qu'ils prétendent que nous exerçons sur les institutions politiques et économiques des États-Unis. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète agissant contre les grands intérêts des États-Unis, et ils représentent ma famille et moi-même comme des internationalistes. Ils vont jusqu'à prétendre que nous conspirons avec d'autres capitalistes dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous voulez. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Les populistes et les isolationnistes ne tiennent pas compte des bénéfices tangibles que nous avons tirés de notre rôle et de nos activités sur le plan international pendant le demi-siècle qui vient de s'écouler. Ils mentionnent rarement ces conséquences positives et ils ne peuvent pas non plus expliquer de façon convaincante comment ils auraient eux-mêmes soutenu la croissance économique américaine et l'expansion de notre puissance politique sans elle. Les États-Unis ne peuvent pas échapper à leur responsabilité mondiale. Le monde aujourd'hui réclame une direction des affaires mondiale et notre pays doit répondre à cette demande. Au XXIe siècle, il ne peut y avoir de place pour les isolationnistes. Nous devons tous être des internationalistes. David Rockefeller, Mémoire, 2002.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec Guy Van Til et toute la bande. La Tunisie se lève. Siem Ben Sedrine, dites-moi ce qui vient de se passer.
Alors, un de nos correspondants dans la région de Madia, à La Cheba, qui s'appelle Nizar Ben Hassan, vient d'être arrêté par ce que nous sommes maintenant obligés d'appeler les escadrons de la mort, parce que ce sont ces 4x4 blindés qui dépendent de la présidence de la République. Ils sont arrêtés devant chez lui. Il les a vus monter dans cet escalier. Il nous a appelés. Il nous a dit « ils sont en train de venir de m'arrêter ». Et immédiatement, son téléphone a été coupé. On a dû probablement le lui confisquer. Et il est parti dans une destination inconnue. On ne sait pas où est-ce qu'ils l'ont pris. Et nous avons très, très peur pour sa vie.
Et c'était quelle heure ?
Une minute avant 13h. Alors, lui, il travaillait sur les vidéos et il a publié hier soir, assez tard dans la nuit, une vidéo sur les manifestations à La Cheba. Il était en train de monter les vidéos ce matin au moment où ils sont venus le prendre dans son domicile.
Est-ce que les vidéos sont visibles ?
Oui, il y en a une. Alors, si vous pouvez aller sur Facebook, sur mon compte, Siem Ben Sedrine, vous allez voir Manif La Cheba ou googlez Manif La Cheba, vous allez tomber probablement dessus.
Oui, on va aller sur votre compte, Facebook, Siem.
Merci, Daniel.
Voilà, minute par minute, les militants, les Tunisiens suivent, font suivre et tâchent de suivre ce qui se passe dans leur pays, et on voit qu'ils utilisent des moyens. Maintenant, c'est Internet, c'est Google, c'est Facebook qui est utilisé, même si le régime tunisien est très malin et très équipé pour couper, pour bloquer les communications. Les stratégies se multiplie, c'est une vraie... Il y a des côtés cyber-guérilla, mais pas seulement. On le voit, on le sait, dans les villes de Tala, de Kasserine, mais aussi de Sfax, de Bizerte, de Kairouan, un peu partout, les émeutes se multiplient et celles-ci ne sont pas du tout virtuelles. Elles sont bel et bien physiques. La Tunisie profonde s'est soulevée. D'abord, on le disait en commençant, les jeunes, les lycéens, les étudiants, les avocats. Et maintenant, c'est tout le pays qui se soulève après ces années et ces années d'oppression et de domination policière. Le président Zine al-Abidine Ben Ali a fait des promesses en 4,5 milliards de dollars pour créer 300 000 emplois en 2 ans. Personne ne l'a cru, plus personne ne croit ni cet homme-là, ni ceux qui l'entourent. Et aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas du tout, l'histoire hésite, la tragédie hésite. On a, juin, par téléphone Siem Ben Sedrine à l'instant, mais aussi on va retrouver Radia Nasraoui, on va retrouver Taoufik Benbrick, on va retrouver des amis, des gens que nous connaissons depuis une dizaine d'années et qui nous suivent, enfin qui nous informent de ce qui se passe dans leur pays. Mais tout au cours de ces années, je le disais en commençant, on nous a dit et répété, et parfois ils le répétaient eux-mêmes, oui, on est isolé, oui, on n'est pas nombreux, la Tunisie profonde est occupée à bien d'autres choses. On avait essayé, il y a une dizaine d'années, avec Guy Van Til, ça avait été très difficile parce qu'on avait déjà les services de police et les services secrets sur le dos, d'aller à la rencontre de cette Tunisie profonde qui bougeait bien évidemment déjà. Mais c'était très difficile, les gens étaient très apeurés. On avait pu avoir quelques témoignages, mais c'était extrêmement difficile. On voit que sous ces dehors indifférents, eh bien, ça couvait, ça fermentait et aujourd'hui, ça explose. L'interrogation qu'on peut avoir effectivement, puisque tout a commencé le 17 décembre, ça fera quelques jours, ça fera un mois que ces événements se déroulent en Tunisie, un pays voisin, un pays francophone, un pays frère, un pays que nous connaissons très très bien. Quelle lenteur dans les interventions de nos autorités, de notre gouvernement, et quelle lenteur aussi dans la couverture médiatique. Aujourd'hui, on s'y intéresse. On s'intéresse aussi à ce qui se passe en Algérie. Il se passe à peu près la même chose, en tous les cas, des émeutes et pour des raisons qui sont assez proches. Bref, voilà ce qui nous passionne aujourd'hui, qui nous intéresse. La Tunisie se lève, c'est jusqu'à 16 heures dans la basse issue.
Mesdames et messieurs, ahla bikoum fi Tunisna al-Khadra. Lehna fama chkoun yitasha malyoun, zada fama chkoun ybat yakol fi al-fadla. Ahla bik fi blad al-amn wal-aman, blad al-salam wad-demokratiya. Ahla bik fi mojtama maqsoum fi tnin, tabqa faqira tabqa ghniya. Une certaine différence, خلق برشا souffrance, خلق برشا violence. خلات الجن التونسي كيف محمد البوعسيسي قدام الجوفرنو خايا حرق روحه بالليسانس. برشا حوال برشا درام برشا فقر برشا جرام مستقبل ما يشجعش. برشا حبس وانتحار ناس هبلت من الدمار. البلاد ما تتفهمش. برشا حوادث ما تتكتبش في الجورنال. something mal que ma Tunisie va mal. الشعب مكبوت يفش في خيدو بالسبان والحشر في بارتيات الفوت. قداش من ريشيرش في الحموم مخبي كل جمعه تطيح روح الحبس معبي. كهربا دار مراه طموحك ليميتي تريسكي ولا تهش يا بروموس بور يا تيرسي. سي سكون ابال السنه الدوليه للشباب. 24 سنة راسي شاب واحد من الناس حاطت روحي مع الشياب. جسمي سان جون ديبلومي قاري كتب بيت خدم موسيقى وراب كلوشار مش مثقف ولي قال ما نتشرفش بنتي تعرس هي بكاش هكا ستار هكا المثقف. بليز نحبك تحط نقطة استفهام وتقولي قداش سكيزوفرني مدام واه قلقهم التلوث الصوتي باش يوطيو في صوت الثان. Je veux être libre dans mes mouvements, mes expressions. Je veux être libre sans avoir peur. Car si tu me donnes ma liberté, je retrouverai ma valeur et mon honneur. Ça a été grave, grave. نخاف كي نبدا نحكي نخاف من ربي لا يعاقبني خاطرني سنين ساكت على حقي.
La révolte des Tunisiens contre la précarité et les inégalités dure maintenant depuis 3 semaines. Le président, au pouvoir depuis 23 ans, s'est exprimé pour la 2e fois depuis le début du mouvement. Mais son discours n'a pas varié.
RTL.
Il parle d'actes terroristes.
10 janvier 2011.
Oui, et lors de sa première allocution, le président Ben Ali avait adopté le ton d'un père de famille strict mais compréhensif. Aujourd'hui, sur la chaîne publique, le chef d'État n'a gardé que la fermeté. Et cette rhétorique des extrémistes terroristes manipulés depuis l'étranger, référence aux manifestants, même les cercueils ne changent pas ces vieilles rengaines, s'énerve le militant des droits de l'homme Mouhidine Cherbib.
Pour
lui, ben, c'est facile de parler de tourisme parce que le soutien de l'Occident, il vient du fait qu'il est considéré comme le rempart contre le terrorisme. S'il rejette surtout, encore une fois, la faute aux manipulateurs de l'étranger, comme s'il y a les opposants à l'étranger qui influençaient ces jeunes-là. Il oublie que ces jeunes, s'ils manifestent aujourd'hui, c'est encore plus parce qu'il s'est comporté comme il s'est comporté par la répression, parce qu'il a tué des gens.
Le chef d'État est resté quelques minutes sur le volet social avec des mesures un peu surréalistes, selon Mouhidine Cherbib. Emploi pour les chômeurs diplômés depuis plus de 2 ans d'ici 2012, lancement d'un débat national pour parler crise économique. Mais ce n'est plus de cette crise-là qu'il doit répondre, s'étrangle le dissident.
Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les mesures. Le régime Ben Ali, il a tiré sur des jeunes. Il y a eu des morts, il y a eu des dizaines de morts. Dans n'importe quel pays, des bilans comme ça, de morts, ça renverse 50 gouvernements. Ben Ali, il ne prend pas la mesure des choses.
Voilà, manifestation en Tunisie, écho sur les radios françaises. On va commencer par Radia Nasraoui. Radia Nasraoui est une des figures les plus fameuses, les plus populaires aussi de la lutte contre le pouvoir de Ben Ali, contre ce système. Et ça fait 30 ans que cette avocate milite dans le domaine des droits de l'homme, et elle est absolument, elle a toujours le même courage, la même détermination et la même simplicité. On l'a appelée il y a quelques instants.
Allô?
Ah, Radia.
Oui, Daniel, oui.
Est-ce que tu
as... Daniel, les flics viennent de nous disperser. Nous sommes au centre-ville.
Oui, raconte.
Tu m'entends?
Oui.
Tu m'entends? À peine nous sommes arrivés sur la place, des centaines de flics sont venus nous agresser, nous disperser. J'ai été moi-même brutalisée et j'avais des confrères et des consoeurs autour de moi. J'ai vu des militants, je ne peux pas te dire le nombre parce qu'il y avait tellement de flics en civil. Ils étaient tous en civil, sauvages, un jargon ordurier à l'égard des femmes surtout. Et puis des coups de matraque et des coups de poing et tout.
Est-ce qu'il y a d'autres manifestations prévues à Tunis?
C'est chaque jour des tentatives, mais comme la mobilisation de la police est vraiment incroyablement importante, les gens n'arrivent pas à continuer. Imagine, à deux ou trois, on a un groupe d'une vingtaine de flics derrière nous. Pour nous bousculer et nous pousser vers, loin du lieu à se rencontrer.
Radia Nasraoui, depuis le temps que vous vous battez, toi et beaucoup d'autres, comment tu expliques cette protection dont Ben Ali bénéficie depuis si longtemps de la part de la France et de l'Europe?
Je crois que d'abord, Ben Ali a beaucoup utilisé l'argument de la lutte contre l'islamisme, l'intégrisme religieux au début, ensuite ça a été la lutte contre le terrorisme pour paraître comme un rempart contre le terrorisme et l'intégrisme. Et ça, je crois que ça a beaucoup contribué à ce que certains gouvernements, en tout cas comme la France plus particulièrement, continuent de soutenir la dictature, même si tout le monde sait et depuis très longtemps que ce régime peut tuer pour une opinion, que ce régime prive les Tunisiens de leur droit au travail, de leur droit à la libre expression, de leur droit de manifester, de leur droit à une vie digne, de leur droit à l'égalité sociale. Donc, je crois que actuellement, ces régimes, même s'ils l'ont fait pendant très longtemps, je crois qu'ils n'oseront plus le faire, parce que les choses sont tellement flagrantes maintenant. C'est tellement clair que ce régime est désavoué par les Tunisiens, que les Tunisiens appellent depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, que les Tunisiens demandent le départ de Ben Ali. Je crois que maintenant, aucun régime occidental n'osera continuer de soutenir Ben Ali.
Ok, Radia. Courage et soutien.
Merci beaucoup, Daniel.
Et
merci.
Amitié.
Ciao.
À bientôt. Ciao, ciao. un autre témoignage, un autre point de vue, celui de Hama Amami, qui est un militant politique qui a été condamné maintes et maintes fois par le régime, qui a vécu longtemps dans la clandestinité et qui aujourd'hui assiste assez étonné et surpris et inquiet, mais assez heureux quand même à ce qui se passe dans son pays. Hama Amami.
Allô, oui.
Oui, Hama Amami.
Oui, c'est bien moi, oui. Hama Amami, le porte-parole du Parti communiste des ouvriers de Tunisie, non reconnu.
Alors, quelle est votre analyse sur ce qui se passe? Comment vous voyez la situation?
À mon avis, la situation s'empire. Le mouvement est parti au début de la région de Sidi Bouzid pour des revendications sociales. Il s'est élargi, aussi bien sur le plan géographique que sur le plan social. Mais en plus, le mouvement a pris de plus en plus un caractère nettement politique. Surtout après la répression qui s'est abattue sur les populations contestataires. Le pouvoir n'a pas répondu aux aspirations de la contestation populaire. Au contraire, dès le début, il a utilisé les moyens forts, la répression qui a pris un caractère armé ces derniers jours, les forces de l'ordre ont tiré sur les populations. C'est cette manière, la manière forte, a exaspéré les populations qui ont continué leur mouvement et ont, d'une manière claire et nette, demandé un changement politique, un changement social et un changement économique. Aujourd'hui, le chef de l'État, au lieu de répondre aux exigences des populations, il a répété presque le même discours qu'il a fait au début. C'est un discours menaçant. Il y a des promesses, mais des promesses qu'on ne comprend pas comment vont être réalisées. Et aussi, il a lancé des menaces. Il a fait endosser la responsabilité de ce mouvement populaire, profondément populaire, à des éléments extrémistes, subversifs, à une toute petite minorité. À mon avis, cela va encore envenimer la situation. Au début, c'était des chômeurs, surtout des diplômés chômeurs. Mais de plus en plus, le mouvement est devenu un mouvement à caractère populaire. Il y a les chômeurs, il y a des fonctionnaires, il y a des étudiants, des élèves, les avocats, les femmes. Tout le monde actuellement, dans toutes les régions pratiquement, participe à ce mouvement-là. Ce n'est pas un mouvement réduit aux jeunes étudiants ou aux jeunes élèves. Au contraire, c'est un mouvement très très large, puisque le chômage est un fléau national, la cherté de la vie, le problème de la corruption, mais aussi la répression politique. À mon avis, il est temps d'appeler à un changement politique en appelant à des élections libres et démocratiques. Et ces élections libres et démocratiques doivent aboutir à l'élection d'une assemblée constituante qui mettra les bases d'un nouveau régime démocratique qui répond aux aspirations des Tunisiennes. Parce que le régime actuel, avec ses différentes institutions, ses différents appareils, ont échoué.
Hama Amami, quand même, le président Ben Ali vient de faire des déclarations en disant « on va changer les choses, on a compris le message, on va débloquer des budgets pour soutenir les étudiants, etc. » Il y a quand même des promesses qui sont faites. Le mouvement est entendu.
Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a eu la révolte du bassin minier, il y a eu aussi des promesses. Mais dans la réalité, ces promesses n'ont pas été exécutées. La seule chose qui a été exécutée, c'était la répression. C'était des arrestations énormes. C'était des procès iniques. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, les anciens prisonniers du bassin minier, actuellement, ils font un sitting ardaïf pour revendiquer leur retour au travail. Il y a aussi parmi eux, des militants qui sont toujours en prison, comme Fahm Boukaddous, le journaliste, comme Hassan Ben Abdallah. C'est pour cette raison-là que les gens n'ont plus confiance dans ces promesses.
Raïs رئيس البلاد. رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاعلى. 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع. اهبط للشارع وشوف العباد ولا تحوش شوف الحاكم بالمتراك تاك تاك ما على بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه. كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف بورطون الحاكم يعرف اللي هو عبد نظيف. نشوف في اللحلش تهرف نسال ما تحاش بيه زعما ترضى هالبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدام بو ما ترضاش الشر لصغارك. الور هذا ميساج عباره واحد من صغارك تحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كل كلام اشترى الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس عذاب. رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باردو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات. رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باردو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات.
C'est moi-même, Mathias Mounier. Vous êtes de quel journal ?
Je suis de France Inter.
Oui, enchanté, monsieur.
Enchanté, monsieur.
Je m'appelle Atmoni Atia. Je suis membre du bureau politique du PDP. Je suis membre du comité de sages Amnesty International. Je suis aussi porte-parole du comité de soutien de la population de Sidi Bouzid.
Alors c'est ça qui nous intéresse peut-être le plus, c'est la question de la population de Sidi Bouzid actuellement. Comment les choses se passent actuellement à l'heure qu'il est ?
À l'heure qu'il est, il y a toujours des manifestations, il y a des affrontements. Donc ce mouvement s'étend de plus en plus et s'amplifie et cela devient chez nous très préoccupant.
Qui manifeste ? Quels sont ceux qui manifestent ? On a l'impression d'ici que ce sont des
jeunes,
étudiants.
Il y a des jeunes en chômage, il y a aussi des élèves, il y a aussi des étudiants. Il y a aussi des habitants. Tout le monde se trouve dans ces manifestations.
Alors, votre président a fait des déclarations apaisantes en faisant des promesses, en disant qu'il avait compris le message. Est-ce que les populations sont influencées, le croient ?
Moi, je ne sais pas, mais d'après nos informations, après son discours, il y a une escalade de violence à Castrine, des gens qui sont dans la rue. Aussi à Sousse, j'ai appris qu'il y a des manifestations à l'issue de ce discours.
Comment on en est arrivé là ?
Vous savez, après 23 ans de répression de tout droit de manifester, 23 ans de répression, après tout ça, la rue a été complètement interdite à toute forme de manifestation et avec une bureaucratie où il y a beaucoup de corruption. Donc les gens ont eu marre et ils sont manifestés pour dire qu'on a déjà assez.
Alors, ce qu'on entend ici depuis longtemps, c'est que le gouvernement du président Ben Ali est un rempart contre l'islamisme. Le président français a même dit « c'est ça ou les talibans ». Est-ce que les islamistes jouent un rôle actuellement dans le mouvement de révolte en Tunisie ?
Aucune existence des islamistes, crois-moi. Ça, c'est un mouvement social, populaire, et leur aspiration, c'est l'égalité des chances, c'est la liberté, c'est la dignité. En Tunisie, nous sommes toujours été un peuple modéré, donc il n'y a aucunement l'intervention des islamistes dans ces manifestations. Il n'y a nullement des extrémistes, c'est le peuple lui-même qui dit clairement non à cette politique.
Atia, je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite bon courage.
Je vous en prie, merci, je vous en prie.
Mouvement en Algérie et en Tunisie, où nous sommes au moins avec les témoignages que nous avons pu avoir par téléphone. Voilà une voix importante d'une femme qui lutte depuis très longtemps, elle aussi, Siem Ben Sedrine, une figure de l'opposition, journaliste, militante, qui a créé un magazine en ligne qui s'appelle Kalima et qui est aujourd'hui aussi une radio qui évidemment a été interdite par le régime mais qui arrive par Internet et par différents canaux à jouer un rôle très important, surtout en ce moment. On voit les thèmes qui reviennent inévitablement dès qu'on parle avec nos amis tunisiens, c'est celui du soutien de la France, enfin de la complaisance pour le moins, et très souvent le soutien des autorités françaises et d'un certain nombre de personnalités politiques, artistiques, des élites, de certaines élites bien évidemment, vis-à-vis de ce régime, ce qui constitue une caution et ce qui lui a permis une grande impunité de ce régime vis-à-vis de la scène internationale, mais aussi qui a inhibé en grande, très longtemps, en grande partie, la population et ceux qui luttent contre ce régime et qui ont lutté si longtemps depuis contre ce régime. Siem Ben Cedrine, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Alors, je suis journaliste. Actuellement, nous dirigeons avec Omar Mestiri une radio qui est en train de couvrir heure par heure tout ce qui se passe actuellement en Tunisie. Je suis également défenseur de droits humains et je suis porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie.
Alors, donnez-nous des nouvelles récentes. Alors,
la nouvelle la plus récente qu'on vient de recevoir à l'instant, c'est un appel au secours des médecins dans les hôpitaux à Tala et à Kasserine qui sont en rupture de médicaments, en rupture d'outils pour opérer, de chirurgicaux, et qui n'ont plus même les moyens humains pour faire face aux blessés graves qu'ils sont en train de recevoir. Ils viennent de faire un appel. Je voudrais juste signaler que hier à Kasserine, parce qu'ils n'avaient plus rien pour faire face aux blessés, les médecins se sont rassemblés devant l'hôpital et la police a tiré des tirs de sommation sur eux pour qu'ils regagnent l'intérieur de l'hôpital. C'est juste pour vous dire jusqu'où actuellement la situation est extrêmement grave.
Ce que vous dites là évoque un bain de sang.
Mais il y a un bain de sang, Daniel. Il y a un bain de sang et nous sommes révoltés, scandalisés par le silence de l'Europe alors que actuellement, nous avons dépassé les 50 morts par balle recensés et ils sont beaucoup plus. Tous les jours, les habitants de Tella, de Kasserine, de Lgheb et de Meghnès découvrent dans l'Oued des cadavres rejetés, criblés de balles. On a fait des ratissages, des escadrons de la mort ratissent les maisons, sortent tout ce qui est jeune, tout ce qui a une gueule, le faciès jeune. C'est ça le délit en Tunisie, c'est être jeune.
Siem Ben Cedrine, comment vous expliquez ce silence relatif, mais enfin ce silence de l'Europe vis-à-vis de ce qui se passe chez vous ?
Concernant l'Union européenne, il y a eu hier après-midi une prise de position de Ashton et de Füle, les commissaires européens. C'est mieux que rien, bien sûr. Après 4 semaines d'émeutes et de répression sanglante, ils finissent par prendre la parole pour dire qu'ils sont inquiets. Voilà, ils sont juste inquiets. Nous considérons que c'est en deçà de ce qu'il y a lieu de faire. C'est beaucoup. Alors, cette dictature, on a le sentiment que c'est la petite protégée de l'Europe.
Comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ?
Écoutez, sur le plan anecdotique, ça a été ce jeune qui s'est immolé par le feu devant le gouvernorat, c'est l'équivalent d'une préfecture à Sidi Bouzid. Mais si vous voulez, cette colère, cette révolte, c'est pas une colère pour le pain uniquement. C'est aussi, bien sûr, une frustration que les richesses de la Tunisie sont empochées et pillées par les clans au pouvoir et le peuple n'en bénéficie pas. Bien sûr, il y a cette frustration. Mais il y a beaucoup, beaucoup de frustration politique. Les slogans qui sont sortis dès le départ à Bouzid et qui se sont répandus comme une traînée de poudre dans tout le pays, ce sont des slogans politiques. Partez, bande de pillards, partez, bande de voleurs, Ben Ali lâche, Ben Ali traître, et les Trabelsi, on veut plus d'eux en Tunisie. C'est ça les slogans que la rue est en train de crier. La rue est en train de vomir ce pouvoir dictatorial et mafieux. C'est cela dont ne veut plus ce peuple. Il ne veut plus de la mafia qui le gouverne.
Alors, Siem Ben Cedrine, vous parlez politique. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui comptent parmi les protagonistes de cette émeute ?
Absolument pas. Malheureusement, les partis politiques sont un petit peu out dans cette révolte populaire. Mais qu'ils soient out, c'est normal parce que le régime de Ben Ali, pendant ses 23 ans de règne, il a tout fait pour les marginaliser, pour les ridiculiser, pour les miniaturiser. Et il a réussi sur ce plan-là. Mais ce qui nous a un peu déçu, c'est que quand ils se sont réunis et qu'il a été question de demander le départ de Ben Ali, ils ont refusé, ils ont demandé la démission d'un gouvernement. Comme si en Tunisie on avait un gouvernement. On n'a aucun gouvernement en Tunisie. On a un gouvernement de façade à présenter aux Européens et aux étrangers. Le vrai gouvernement, il est à Carthage. C'est la police. C'est M. Ben Ali et ses escadrons de la mort. Ils sont en 4x4 blanches blindées. Et ces escadrons de la mort, c'est une milice privée de M. Ben Ali, reliée directement à la présidence. Ça, il faut le dire et il faut le dénoncer ouvertement. Eh bien, moi, je lance un appel parce que je n'ai pas d'autre moyen que toutes les forces vives et des gens qui pensent à la Tunisie, pour qui la Tunisie est chère, qui veulent la sauver réellement et qui sont partout. Ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont dans le parti au pouvoir, ils sont dans des partis d'opposition, ils sont partout, ces gens-là. Eh bien, j'appelle à ce que ces gens-là, eux, sauvent la Tunisie et nous débarrasse de ce pourri de Ben Ali et de son régime. Voilà mes attentes, mais je rêve peut-être parce que je ne suis pas en train de voir d'alternative. C'est ça notre désespoir en Tunisie. Ce régime a tout fait pour marginaliser toutes les alternatives pacifiques. Et aujourd'hui, une chose me rassure, nous avons affaire à un peuple conscient, mûr et qui sait ce qu'il veut. Et ce n'est ni un peuple islamiste, ni un peuple laïque, ni un peuple rien du tout. C'est un peuple tout court qui demande sa dignité. Ce peuple ne veut plus de Ben Ali et de son régime et qu'il y en a marre que la France tienne à bout de bras ce Ceausescu tunisien. Voilà.
Merci Siem Bensedrine. Merci beaucoup.
On va passer au j'aime, j'aime pas. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas la prudence de Paris à propos de la Tunisie.
Canal Plus.
Et de son gouvernement.
11 janvier 2011.
Non, je crois que...
Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture.
Le président Ben Ali est quelqu'un qui est souvent mal jugé, qui a fait beaucoup de choses. On peut critiquer après certains aspects, toujours vigilant sur les droits de l'homme, mais c'est un pays qui a connu de vraies difficultés. Avant de juger un gouvernement étranger, mieux vaut bien connaître la situation sur le terrain et savoir exactement pour quelles raisons telle ou telle décision a été prise.
Pour vous, c'est une démocratie ?
Je n'ai pas à qualifier le régime tunisien.
Bah, c'est ce que font les Tunisiens aujourd'hui dans la rue ?
Oui, mais c'est les Tunisiens. Moi, je suis français, je n'ai pas à juger de l'extérieur, comme ça, un gouvernement étranger.
Moncef Marzouki, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Je suis médecin, je suis écrivain, je suis opposant au régime de Ben Ali. En 1994, je me suis présenté aux élections présidentielles et j'ai été mis en tôle parce que c'était déjà un crime de lèse-majesté. Je m'oppose au régime de Ben Ali depuis maintenant une vingtaine d'années et je suis très heureux de voir que le pays est en train de se réveiller pour se débarrasser d'une des pires dictatures du bassin méditerranéen.
Alors, comment c'est arrivé selon vous ?
D'abord, je voudrais dire que ces émeutes sont quelque chose de tout à fait inconnu dans l'histoire de la Tunisie. C'est sans précédent. Le nombre de morts, 50 morts en l'espace de 2 jours dans quelques petites villes et petits villages, et aujourd'hui on parle de 90 morts pour l'ensemble du pays, ça aussi c'est sans précédent. Mais tout cela ne peut s'expliquer que par le fait que tout ce qui s'est passé en Tunisie les dernières vingtaines d'années, c'est sans précédent, une corruption sans précédent. Jamais on n'a vu une corruption comme ça. Des familles mafieuses littéralement se partageaient le pays au vu au-dessus de tout le monde. Donc une corruption sans précédent, une répression sans précédent. Cet homme n'a laissé aucun espace de liberté à qui que ce soit. Il a détruit l'opposition, il a détruit les syndicats, il a détruit la presse, il a détruit la magistrature, il a tout détruit. Donc une répression sans précédent. Et aussi des mensonges sans précédent. Avec cet homme, les mots ont perdu tout sens. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les seuls mots qu'il a à la bouche, c'est démocratie, droits de l'homme, liberté, dialogue, modération, etc. Et la réalité est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que la première victime de cet homme, ça a été, je dirais, la langue elle-même. Les mots ont cessé d'avoir le moindre sens. Donc c'est devant cette destruction à la fois de la langue, des valeurs, de l'État, parce qu'il a réduit à rien la magistrature, il a corrompu la police, etc. Donc devant cette situation sans précédent, il y a une révolte sans précédent, et il faut qu'il y ait une solution aussi sans précédent, il faut que cet homme s'en aille le plus rapidement possible, et qu'on cesse ici en Occident à se raconter des histoires, enfin à vivre dans une espèce de fantasme, comme quoi c'est une petite démocratie, et c'est le rempart de l'islamisme. Il est temps vraiment que les Occidentaux se réveillent de cette enceinte de fantasme, qu'ils comprennent que le sang coule en Tunisie par cet homme qu'ils ont toujours appuyé, qu'ils ont toujours cru, garant de la stabilité, alors qu'il est aujourd'hui le ferment numéro un de l'instabilité.
Alors pourquoi ce soutien, vous dites, un rempart contre l'islamisme, c'est l'argument qui est toujours avancé. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à ce soutien de la France ?
Les raisons sont multiples et complexes. Les plus simples, c'est le fantasme. Il y a de l'autre côté de la Méditerranée un danger islamiste, et ce danger islamiste, si jamais il prend le pouvoir dans un pays comme la Tunisie, c'est la fin des haricots. Or, il n'y a pas de danger islamiste en Tunisie. La preuve en est, c'est que maintenant, depuis 3 semaines, il n'y a pratiquement pas eu de mouvement islamiste. Ce sont des demandes de fin de la corruption, du départ de Ben Ali, de liberté, de dignité, etc. Donc, on ne peut plus laïque. Il n'y a pas eu un seul mot islamiste. Bon, ça, c'est la première. Il y a d'autres causes, il n'y a pas que ça. C'est que la Tunisie est supposée être aussi une barrière, une police frontière contre l'immigration africaine. Et actuellement en Tunisie, comme au Maroc d'ailleurs, il y a plein de centres de rétention pour ces pauvres Africains. Donc la dictature est pour eux une police de frontière de plus et qui ne paye pas. En plus, bon, il y a la Tunisie, c'est quand même une arrière-cour où le tourisme, qui n'ont pas beaucoup de moyens, peuvent aller se prélasser tranquillement et donc ça peut aider un peu à... Mais moi, ce dont j'ai peur le plus, c'est qu'il y a derrière tout ça une espèce de culturalisme, pour ne pas dire de racisme, en disant « de toutes les façons, la démocratie, ce n'est pas pour les Arabes. Après tout, comme a dit Chirac, du moment qu'ils mangent, c'est déjà pas mal, etc. etc. » Et qu'il faut cesser de se raconter des histoires comme quoi la démocratie, ce n'est pas bon pour nous, c'est uniquement un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Non, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, et nous allons nous la payer, et très rapidement.
Bon, Moncef Marzouki, quel lien vous faites entre ce qui se passe dans votre pays actuellement en Tunisie, est-ce qu'il se passe à côté en Algérie ?
C'est le même phénomène. Sur l'ensemble du monde arabe, c'est actuellement la crise du système politique arabe. Le système politique arabe, depuis la première indépendance, a été basé sur un certain nombre de principes. C'est la toute-puissance d'un homme, la toute-puissance d'un parti, le droit à la corruption, ça c'est maintenant de plus en plus net, le gouvernement par l'illusion, c'est-à-dire en mettant en place des fausses démocraties, etc. C'est ce système-là qui est en train de manger la poussière. Il faut que les Européens comprennent que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a une conscience politique extrêmement éveillée, extrêmement vive, qu'il y a des élites très, très au courant de ce qui se passe dans le monde, qu'il y a une jeunesse qui s'est accaparée les technologies les plus modernes, qu'ils utilisent à fond maintenant le cyberespace pour le combat de la liberté. Il y a des choses extraordinaires qui se passent de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est l'effondrement du système politique qui est hérité des années 50. Il est en train de s'effondrer en Tunisie, il est en train de s'effondrer en Égypte. Et donc c'est un nouveau système politique qui est en train de se mettre en place. Alors, jusqu'à présent, la crainte des Occidentaux, c'est de dire « oui, mais s'il se met en place, ça va être un islamiste ». Non, le système qui va se mettre en place de l'autre côté de la Méditerranée n'est pas islamiste, il sera démocratique. Et tout le reste, ça relève du fantasme et d'une politique qui est à la fois aveugle sur les intérêts à moyen et à court terme, et une politique qui est quand même totalement contraire aux valeurs de l'Occident. Donc voilà la solution, c'est le départ de Ben Ali, le gouvernement intérimaire, et ensuite des élections libres et honnêtes dans 6 mois. Alors, seule l'armée, pour le moment, peut effectivement faire le saut. Et moi, je demande à l'armée, effectivement, de prendre ses responsabilités. Non pas pour s'installer au pouvoir, comme ça a été souvent le cas, mais pour permettre justement cette transition démocratique. Hormis cela, c'est le chaos. La Tunisie est partie sur des années de violence et de chaos. Et de toute façon, on reviendra à cette solution, tôt ou tard, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ben Ali ne peut pas rester. La rue ne peut pas prendre le palais de Carthage pour y installer qui. Donc la seule façon, c'est effectivement qu'on nous aide tous à faire partir ce dictateur et à installer un gouvernement intermédiaire et à organiser des élections libres et honnêtes pour restructurer l'ensemble de l'espace politique et pour commencer les réformes qui ont trop tardé.
Moncef Marzouki, je vous remercie.
C'est moi.
Salut, à bientôt.
Au revoir.
Une visite bien organisée.
France 2.
Dans les rues de la Médina de Tunis, chaque échoppe a son portrait de Nicolas Sarkozy.
29 avril 2008.
Chaque coin de rue, son groupe folklorique. Côté carte postale, c'est une réussite. Côté commercial, ce n'est pas mal non plus. 19 Airbus, une centrale thermique vendue pour une facture proche de 2 milliards d'euros. Mais également, 2 accords de partenariat sur l'immigration et le nucléaire. Reste la question qui fâche.
Madame Ramayad, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, de la République française.
Si le protocole tunisien oublie les droits de l'homme dans le titre de Ramayad, ce n'est sans doute pas un hasard. Si la même Ramayad évite les journalistes, ce n'en est pas un non plus. Et quand finalement Nicolas Sarkozy parle des droits de l'homme, c'est un minima.
Aujourd'hui, l'espace des libertés progresse. Ce sont des signaux encourageants que je veux saluer. Et je ne vois pas au nom de quoi je me permettrais dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami, de m'ériger en donneur de leçons.
Voilà les leçons, voilà les signaux, la rue, les villes, la Tunisie tout entière qui est en train
de se soulever. Vous l'avez entendu à travers ses analyses, ses témoignages à chaud de quelques Tunisiens, quelques voix tunisiennes. Il en manque une, évidemment. C'est celle de Taoufik Ben Brik, sans doute un des Tunisiens les plus célèbres en France pour ses grèves de la faim, pour ses engagements, pour ses livres et pour ses articles dans la presse depuis longtemps. Taoufik Ben Brik. Taoufik,
oui.
On va enregistrer là une intervention, hein, si tu veux bien.
Oui.
Ok. Eh
bien, dis-moi, quoi, pour que je me prépare.
Oh, tu es tout préparé. Attends, Taoufik, tu me demandes, ça fait 20 ans que tu te prépares.
Oui.
Taoufik Ben Brik, je vous trouve bien joyeux aujourd'hui.
Joyeux parce que, tu sais, les hommes comme moi ne peuvent pas vivre dans un monde de moisissures, un monde médiocre et pâle. Là, maintenant, c'est une année lumineuse et précieuse. Le peuple qui était orphelin, qui était délaissé, se reprend et se donne sa propre filiation et se dit qu'il a son propre mot à dire. C'est vrai que c'est douloureux pour nous tous et c'est des jours de deuil, mais c'est aussi des jours de carnaval pour toute une Tunisie qui a été muselée. Voilà que ce peuple, qu'on disait de lui qu'il est efféminé, que c'est une femellette, montre au monde entier qu'il est brave. Ce peuple qui ne vend pas son âme, c'est-à-dire sa liberté, même au prix du paradis.
Taoufik, qui manifeste actuellement ?
En fait, c'est une autre génération qui n'a rien à voir avec les seniors. C'est une génération qui manie à merveille les manettes des consoles. C'est des supporters d'équipes de football, mais aussi c'est des gens qu'on croyait qui n'avaient pas une conscience sociale et politique. Il s'avère qu'ils ont toutes les consciences. Et en fait, ceux qui descendent, c'est des chômeurs, pas seulement des chômeurs diplômés, c'est des chômeurs aguerris qui prennent la rue pour tribune et pour tremplin. Et il y a ceux qui ébruitent les informateurs, les journalistes amateurs, les Facebookiens, les Twitters, des jeunes très cultivés, très à la page et branchés, qui aiment ce que leurs frères démunis, pauvres et chômeurs font sur le terrain.
Taoufik, tu connais bien le pouvoir de ton pays. En tous les cas, le pouvoir de ton pays s'est beaucoup occupé de toi ces dernières années. Est-ce que tu penses vraiment que Ben Ali est capable de composer avec une opposition ? Et est-ce que tu crois qu'il est capable de se replier devant cette pression, devant cette force en face de lui ? Ou bien est-ce qu'il va augmenter la répression ? Qu'est-ce qu'il a en tête ? Qu'est-ce que le gouvernement de ton pays a en tête en ce moment ?
Je crois qu'il peut faire cette pirouette. Dialoguer avec cette opposition, même l'opposition autrefois abhorrée par Ben Ali, mais ça ne rime à rien parce que la rue n'appartient plus ni à Ben Ali ni à cette opposition. Elle ne répond plus à tout le monde. Ses revendications dépassent tout le monde. Elles me dépassent. Elles dépassent la planète. Ils n'ont pas de revendications. Ils en veulent au monde entier de les avoir humiliés. En fait, ils en veulent d'avoir vécu auprès de parents humiliés et offensés. Ils veulent seulement montrer qu'ils n'ont pas peur de personne. Ils veulent que leur tête soit haute. Et moi, je me sens aujourd'hui out. Moi qui n'a pas cessé de batailler, je me sens out et je me sens carrément démoralisé et dépassé. Je suis un has-been. Tu vois, je crois, j'étais un bon accompagnateur de cette Tunisie qui était en léthargie. Et là maintenant, ses propres enfants la reprennent en charge.
Ok. Bon,
okay.
Je t'embrasse, vieux frère.
Moi aussi. Allez, ciao,
ciao. Salut, ciao, ciao. Ciao. La Tunisie se lève. Merci à tous. Merci à Siem Ben Sedrine, Radia Nasraoui, Ama Amami, Atia Atnouni, Moussef Marzouki et Taoufik Benbrick, ainsi que Maître Raoul Ayadi. C'était un reportage préparé avec Guy Van Til. Vous retrouverez toutes les informations et les sites internet de l'opposition tunisienne sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse, j'y suis. On mettra tout ce qu'on sait et tout ce qu'on vous pouvez utiliser comme site et comme tuyau pour vous tenir informé de ce qui se passe là-bas et qui est loin d'être terminé et d'être apaisé. À la technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Sophie Moreno, Koye Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de La Basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et encore une fois, si vous avez des témoignages, si par bonheur vous nous écoutez en Tunisie, ou si vous pouvez nous mettre en contact avec des Tunisiens qui sont dans l'action, qui peuvent nous donner des témoignages, ce serait très précieux pour tous. Je répète à nouveau, le répondeur de La Basse, j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et comme les lignes sont difficiles, vous pouvez aussi nous joindre sur daniel.mermet@radiofrance.com. Daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.